Le journal de la nuit, c'est maintenant avec Sophie Tussaud.
Je pars 5 jours en Grèce, puis 2 semaines en Corse. Enfin, un grand mois de pause dans notre restaurant, parce qu'on a pas mal travaillé dû à la réouverture des restaurants. Farniente, les pieds en éventail.
Grand week-end de chassés-croisés. Les juilletistes rentrent, les haussiens partent. 1 million de voyageurs sont attendus dans les gares de France d'ici à dimanche. L'épidémie de Covid-19 continue de flamber en France. Reconfinement en Outre-mer et des patients de plus en plus jeunes en réanimation. La Chine également, qui se pensait à l'abri, fait face à une explosion des cas en raison du variant Delta. Emmanuel Macron a pris ses quartiers d'été, comme chaque année, au fort de Brégançon. Un lieu où, en plus de se reposer, il a l'habitude de travailler. Visite guidée à suivre. Il est désormais le judoka français le plus médaillé de l'histoire des Jeux. Teddy Riner a remporté le bronze à Tokyo. C'est moins qu'attendu, mais la fierté est là. Et puis, le temps, des averses orageuses attendues dans le sud du pays. La météo de Marlène Duré en fin de journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est le week-end le plus surchargé de l'année. Il faut prendre son mal en patience. Il y a énormément de monde, que vous preniez la route, le train ou l'avion, chassé-croisé entre juilletistes et haussiens. Les gares sont bondées. Entre aujourd'hui et dimanche, près d'1 million de personnes doivent prendre le train. Et forcément, c'est la cohue, comme à la gare Montparnasse où vous vous êtes rendu, Laura Taouchanoff.
Oui, à croire que tout le monde s'est rué à la gare après la sortie du travail. Paul est prêt, lui aussi, à fuir Paris après une année compliquée dans la restauration.
À Bordeaux ce week-end et je pars 5 jours en Grèce, puis 2 semaines en Corse. Enfin, un grand mois de pause dans notre restaurant, parce qu'on a pas mal travaillé dû à la réouverture des restaurants. Voilà.
Vous allez vous mettre sur messagerie, plus personne m'appelle, c'est terminé.
Exactement. Farniente, les pieds en éventail.
À côté de Paul, j'ai croisé Théo, prêt pour 3 semaines de vacances entre le Cap Ferret et la Charente-Maritime. Là aussi, une année difficile et il est temps de souffler.
On va surtout se retrouver avec en famille. Et puis pour affronter la rentrée, pour savoir ce qui va nous attendre, comment va se terminer 2021.
C'est vrai, ça peut encore être pire.
On ne sait pas du tout pour l'instant.
Et puis en ce week-end de chassé-croisé, il y a ceux qui rentrent évidemment, et ça se voit tout de suite sur le visage de Christiane et Martin, son petit-fils.
J'ai gardé mes petits-fils qui habitent Paris et ils ont passé 2 semaines sur le bassin d'Arcachon. Mais ils repartent demain avec leurs parents.
Est-ce qu'ils ont été sages? T'as été sage?
Pas vraiment. Non, je montre le mauvais exemple à mon petit frère. Je lui fais faire des bêtises.
Ils étaient avec nous, donc c'était génial.
En tout cas, c'est une chance pour ceux qui ont choisi le train ce week-end. Ils n'auront pas d'embouteillage sur leur route des vacances.
Laura Taouchanoff, et on s'intéresse à présent à vos conditions de circulation.
Europe 1. Le radioguidage sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, Agri et CNAPS.
Week-end surchargé sur les routes. Au plus fort de la journée, il y a eu plus de 1000 km de bouchons. Ça commence à aller mieux. Ça bouchonne toutefois toujours à l'entrée de Paris à hauteur de Boulogne-Billancourt sur la N118, sur l'A86 entre Nogent-sur-Seine et Rosny-sous-Bois. Ça coince également sur l'A7 entre Valence et Montélimar, sur l'A54 près de Nîmes. Dans l'ouest, toujours des bouchons sur l'A10 entre Berneuil et Saintes. Demain sera pire. La journée est classée noire. Bison futé déconseille de prendre la route. Les difficultés de circulation sont attendues dans le sens des départs sur les autoroutes A6, A7, A8 et A9, ainsi que sur l'A20, l'A61, A62, A63 dans le sud-ouest.
Europe 1, le journal de la nuit.
Sophie Tussaud. Également dans l'actualité, la flambée d'épidémie de Covid-19. Plus de 24 300 nouveaux cas de contamination ont été détectés ces dernières 24 heures. Le nombre de malades en réanimation continue de grimper. 57 personnes de plus à 1072 patients. Outre-mer, la situation est jugée dramatique par Jean Castex. À compter de 19h heure locale, la Martinique sera reconfinée ce soir pour 3 semaines. Les premiers patients Covid seront transférés demain de Fort-de-France vers Paris. La Réunion également se confine partiellement pour 15 jours à compter de demain. Des mesures strictes qui sont nécessaires pour endiguer la progression du virus et éviter une surcharge des services hospitaliers, comme nous l'a expliqué Bruno Mégarbarde, chef du service réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris.
En Martinique, à La Réunion, là, carrément, le capacitaire hospitalier, c'est-à-dire le nombre de lits capables de prendre en charge les formes grave de la Covid-19 est dépassé. Le taux de pression sur les services de réanimation est au-delà de 100% et malheureusement, le personnel soignant n'est pas en nombre suffisant. Il faut donc déprogrammer des interventions, diminuer l'offre de soins. Et dans ce cas-là, il faut très rapidement freiner, stopper la progression de l'épidémie. Et seul le confinement le permet. Par expérience des trois vagues précédentes, les confinements ont permis avec succès relativement rapidement, à peu près 5 à 7 jours après leur instauration, d'inverser la courbe de progression de l'épidémie et donc effectivement d'éviter une catastrophe sanitaire.
Bruno Mégarbarde, chef du service réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris avec Thierry Dagiral sur Europe 1. À l'étranger, le variant Delta gagne également du terrain, comme en Chine qui pensait pourtant en avoir fini avec le Covid-19. Le pays vit actuellement une nouvelle flambée de cas. Des personnes vaccinées sont tombées malades et après des mois d'accalmie, Pékin a dû décider de nouvelles mesures de confinement. Notre correspondant sur place, Sébastien Le Belzic.
Comme je dis aux visiteurs et quand nous sommes dans le bureau du président, je leur dis, il faut imaginer que vous êtes comme dans son bureau à l'Élysée. Quand il arrive, les téléphones sont mis en place et il a le monde entier au bout de son fil, hein, s'il veut téléphoner. Et vous avez ses ordinateurs, donc c'est vraiment ça. Son bureau, il travaille là comme quand il est à Paris. Monsieur Macron a reçu Madame May, il a reçu Monsieur Poutine. Donc il a reçu ses ministres, M. Castex est venu. C'est des vacances tout en étant peut-être en télétravail.
Alors, il y a beaucoup de gens qui disent « Oh là là, jamais j'irai passer les vacances là-bas ».
Moi, si j'étais présidente de la République, j'irais directement les passer parce que c'est vraiment un endroit de tranquillité. Personne ne peut vous voir. Vous êtes dans un endroit où il n'y a aucun bruit. Vous avez une vue extraordinaire. C'est fabuleux.
Bon, alors là, on vient d'entendre Fabienne, qui est guide pour l'Office du tourisme de Bormes-Mimosas, puis qui nous parlait du fort de Brégançon, où Emmanuel Macron passe actuellement ses vacances. On va donc prendre la direction de Pékin, et on va retrouver Sébastien Le Belzic, qui nous parle de la Chine, qui a dû prendre de nouvelles mesures de confinement face à la progression du variant Delta.
La plupart des nouveaux malades étaient pourtant vaccinés, ce qui inquiète beaucoup les Chinois quant à l'efficacité réelle de leur vaccin face au variant Delta. C'est ce variant qui, pour la première fois, a été détecté à Nanjing, dans le sud-est de la Chine, où l'on compte déjà plus de 200 malades. Une flambée certes limitée, mais qui intervient dans un pays sous cloche, où 1,6 milliard de doses de vaccins ont déjà été administrées. À Nanjing, plus de 9 millions d'habitants ont été dépistés et plusieurs quartiers placés en confinement strict. Yang Dasuo est directeur adjoint de la commission de santé de Nanjing.
Tous les habitants de la ville, y compris les simples visiteurs, vont être dépistés et ceux qui habitent dans les zones les plus touchées le seront plusieurs fois afin d'être sûr que cette campagne soit vraiment efficace.
Cette nouvelle alerte intervient après des mois sans nouveaux cas. Même à Pékin, où il n'y avait plus de malades depuis 6 mois, plusieurs foyers ont été identifiés ces derniers jours et certains quartiers ont été bouclés et désinfectés. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1.
Dans l'actualité économique en France, ce joli printemps pour l'économie française, le PIB a progressé de 0,9% au deuxième trimestre. C'est une hausse assez forte, meilleure qu'attendue d'ailleurs, ce qui permet, Emmanuel Duteil, à l'économie française de se rapprocher de son niveau d'avant-crise.
Oui, hein. Et ce fort rebond s'explique notamment par le fait que nous avons repris à consommer avec la levée des confinements. La consommation repart très fort, notamment dans la restauration. Puis on a aussi tout simplement recommencé à se déplacer. On a pris les transports et ça permet d'alimenter la consommation. Mais bon, attention, hein. On est encore loin de nos niveaux de consommation d'avant-crise. L'autre bonne nouvelle vient de l'investissement. L'investissement, c'est par exemple quand une entreprise a décidé d'acheter une nouvelle machine. Là, on retrouve même les niveaux d'avant-crise. C'est toujours compliqué en revanche pour notre commerce extérieur. On continue d'importer plus que nous exportons. Sans surprise, on importe beaucoup en ce moment de produits pharmaceutiques. Grâce à cette reprise, notre niveau de richesse est encore inférieur de 3,3% à notre niveau d'avant-crise, mais l'écart se réduit maintenant très fortement. Et ce solide trimestre renforce les espoirs d'une croissance très forte cette année. Le gouvernement table sur 6%, si bien sûr le variant Delta ne vient pas tout détraquer.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. L'allocation de rentrée scolaire sera versée le 17 août. 3 millions de familles sont concernées par cette aide. Elle s'élève entre 370 et 404 euros en fonction de l'âge des enfants. La direction Paris, à présent, où à nouveau une joaillerie a été braquée 3 jours après la boutique Chaumet près des Champs-Élysées. C'est la bijouterie d'Invan, rue Vieille du Temple, dans le 4e arrondissement qui a été visée, Marion Dubreuil.
Oui, 2 suspects sont entrés dans la bijouterie peu avant 12h30, habillés comme des clients avec des vêtements de luxe. Ils étaient armés d'un taser, d'une bombe lacrymogène et d'une arme de poing. Ils ont menacé le personnel dans la boutique et se sont emparés de plusieurs bijoux et également de l'argent liquide. Leur butin est évalué à 400 000 euros. Ils ont ensuite pris la fuite à pied. Aucun blessé n'est à déplorer. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour vol avec arme en bande organisée. Les investigations ont été confiées à la brigade de répression du banditisme. La BRB a déjà entendu les témoins. Elle va exploiter les images de vidéosurveillance autour du magasin pour tenter de retracer le parcours des braqueurs. C'est le même service qui enquêtait sur le braquage de la bijouterie de Chaumet et qui avait permis de remonter jusqu'au suspect à trottinette et son complice. Les deux Monténégrins étaient à bord d'un autocar direction la Serbie. La quasi-totalité du butin, plus de 2 millions d'euros, a été retrouvée. Les deux hommes sont toujours en garde à vue.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. Les techniques d'arrestation de la police sont officiellement modifiée. Selon une note du patron de la police, la clé d'étranglement est remplacée par 3 nouvelles techniques. Amener le suspect au sol par pivot, l'amener au sol par contrôle de demi-épaule et la maîtrise par contrôle de la tête. La décision d'abandonner la clé d'étranglement avait été prise en janvier 2020 par l'ancien ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, mais elle était toujours utilisée faute de directive sur de nouvelles pratiques. On passe au sport. 2 nouvelles médailles pour la France aujourd'hui à Tokyo, ce qui fait 13 récompenses en tout pour les Bleus depuis le début de la compétition. 2 médailles en judo, du bronze, prometteur pour la jeune Romane Dico chez les plus de 78 kilos, mais une déception pour Teddy Riner qui a finalement sauvé les meubles, Julien Froment.
Oui, c'est vrai, une médaille au goût amer. Hein. Il était attendu peut-être trop. Teddy Riner, 32 ans, avait de nombreux obstacles à surmonter pour espérer réaliser le triplé en or. Le report des Jeux, sa blessure au genou, le poids de l'âge, il le dit lui-même, ou encore la pression de tout un pays sur ses épaules. Dans ces conditions, une médaille de bronze, c'est comme une victoire pour lui.
Voilà, la médaille, elle est là. Alors oui, c'est vrai, j'aurais voulu avoir l'or, mais voilà, c'était pas possible aujourd'hui. C'est passé à peu de choses. Je suis encore sur le tatami des Jeux Olympiques. 4e Jeux Olympiques, 4e médaille. Donc ça fait plaisir quand même. Merci à ma famille, merci à mon staff. Il y a encore les équipes demain, donc peut-être j'aurai la chance d'avoir cette fameuse 3e médaille d'or. On va se battre, on va se battre.
Teddy Riner, le bronze qui pleure, et Romane Dico, le bronze de l'espoir. La jeune judoka de 21 ans, sociétaire elle aussi du PSG, est montée sur la 3e marche du podium. Et là, ce que vous entendez, eh bien, c'est l'ambiance au siège administratif du Paris Saint-Germain, la Factory. Effusion de joie pour les proches de la judoka et notamment de sa maman Charlotte.
C'est génial, c'est magnifique, il n'y a pas de mots. Félicitations Romane, bravo ma fille, on t'aime, on t'aime, on t'aime. On est trop contents. C'est top, c'est juste premier JO et ramène, c'est pas rien, médaille au JO quoi. Pour moi c'est comme si c'était l'or.
Place désormais demain à l'épreuve par équipe. Une chance pour Teddy Riner de repartir de Tokyo avec sa 3e médaille d'or et pour Romane Dico de marcher dans les pas de la légende du judo tricolore.
Julien Froment du service des sports d'Europe 1. Et autre sensation aujourd'hui aux Jeux Olympiques, l'élimination de Novak Djokovic en simple, en demi-finale par Alexander Zverev. Le tennisman qui a également été éliminé en double mixte, là aussi dans le dernier carré. Peut-être attendez-vous un heureux événement et vous êtes en train de choisir un prénom pour votre bébé. Pour la première fois depuis 10 ans, Emma et Gabriel ne sont plus en haut du classement. Il y a eu du changement au palmarès des prénoms les plus donnés et ce sont de nouvelles tendances qui émergent, Angèle Châtelier.
Oui, près de 750 000 bébés sont nés l'année dernière en France. Parmi eux, 3 814 Jade, le prénom le plus donné pour les filles. Et encore plus de Léo, côté garçon, ce qui a le plus de succès. Les prénoms courts, et chez les filles, ceux en A. Elena, Sophia ou Mia, comme a pu le constater Laura Taouchanov.
Alors ça, c'est Alisha.
Alisha.
Et ma deuxième, elle s'appelle
Mia. On peut m'appeler Mimi. C'est efficace.
Ou c'est court, en fait. On est dans l'époque des textos, je pense. Peut-être que c'est ça.
Alors sur le podium pour les garçons, il y a Léo donc en première place, suivi de Gabriel, Raphaël, Arthur. Mais il arrive qu'un prénom connaisse une certaine gloire grâce à l'actualité, ce que rappelle Baptiste Coulmont, sociologue des prénoms.
Joséphine, par exemple. Quand Alain Bashung a fait sa chanson « Osez Joséphine », il y a eu quelques dizaines ou centaines de petites Joséphines en plus.
C'est aussi ce qu'il s'est passé lorsque la vedette Nabila a accouché d'un petit Milan en 2019. Depuis, presque 700 parents ont choisi le même prénom pour leur enfant. On avait constaté le même engouement pour le prénom Kylian, en référence à Kylian Mbappé, même s'il perd 30 places cette année.
Angèle Châtelier, on passe au temps. Encore des averses orageuses dans le sud du pays demain, Marlène Duret.
Oui Sophie, dès le matin, du Sud-Aquitaine à l'Occitanie, et on en a pour toute la journée. L'après-midi, elles s'étendront aux Alpes en débordant sur le littoral méditerranéen et se renforceront même en soirée sur l'est des Pyrénées. Il faudra donc miser sur la matinée si vous voulez profiter du soleil en Provence-Alpes-Côte d'Azur et autour du Golfe du Lion. Sur le reste du pays, le ciel sera partagé entre nuages et soleil, avec plus de nuages en bord de Manche et dans le nord-ouest, avec même quelques averses. Elles deviendront plus nombreuses en journée à mesure que ces nuages gagneront l'île de France, le Poitou-Charentes et l'Aquitaine. Les températures 19 à 25 degrés en général, la minimale 17 pour Tarbes, grosse gamelle dans le sud-ouest, prévoyez 20 degrés à Toulouse, 19 à Auch, à Paris il fera 23, il va continuer à faire chaud en revanche dans le sud-est avec 26 à 31 degrés, localement 32 à 35 en Provence, dans le Var et en Corse.
Merci Marlène Duret. On jette à présent un œil à quelques-uns des titres que vous retrouverez dans vos kiosques demain. Les cyberattaques, nouvelle arme de guerre moderne, titre Le Figaro. Si des pays comme la Chine ou la Russie pratiquent déjà les attaques à grande échelle, des puissances régionales s'y essaient, annonçant une nouvelle ère dans le cyberespace. Le Figaro Économie, lui, met à la une la France qui renoue avec la croissance au printemps, avec l'allègement des restrictions. Le PIB a progressé de 0,9% au deuxième trimestre. Il se rapproche de son niveau d'avant-crise, selon les chiffres dévoilés par l'INSEE. Et puis, le populaire du centre vous conseille d'oser les vacances insolites, parce que la région ne se limite pas qu'aux vaches et aux plaines verdoyantes. Osez découvrir la région sous un nouvel angle, en vivant des nuits insolites dans des lieux plus originaux les uns que les autres. Tous ces conseils sont à lire en page 2 et 3 du Populaire du Centre.